Gameblogueuse, Gameblogueur, bonjour.
Gameblogueuse,
Gameblogueur, let's get ready to rumble. Bienvenue dans le nouveau podcast.
Putain, tu l'as pas tenu assez longtemps.
Non, mais je suis pas.
Comment il s'appelle? C'est
Michael Buffer.
Buffer. Michael Buffer.
Ah, je suis pas capable de faire
ready to rumble.
Plusieurs centaines de milliers de dollars pour faire ça.
Putain, ce génie.
Ah, mais
juste
pour ce mec, il est très très fort.
Et comment attendant. Il s'appelle celui dans la dans le UFC?
C'est Bruce Buffer, c'est son frère.
C'est son frère.
Cette famille, on s'enrichit avec les conneries.
Putain, les deux, ils font le même métier et les deux sont blindés juste pour faire deux phrases.
C'est ça.
Et lui, ouais, il a trouvé un autre gimmick, lui.
Moi, je vais faire ça comme métier.
It's time.
Et ouais. Putain, et eux, deux, ils font ça et nous quatre, et ben, on va faire un podcast aujourd'hui, messieurs, parce qu'on va faire le nouveau podcast de la rédaction avec, vous avez entendu déjà, Julo.
Bonjour, messieurs.
Romain. Yo. Et Julien.
Et pas que.
Et
puisque je tenais à lever mon verre et saluer
très
chaleureusement Olivier Roy du Bocal, notre ami gameblogger, qui nous a envoyé à l'occasion des 10 ans de Gameblog, parce que vous l'avez peut-être vu le petit macaron sur le site, mais pendant toute l'année nous allons fêter les 10 ans de Gameblog, c'est beau, il y aura d'autres surprises. Et bien il nous a envoyé un espèce de rhum arrangé. Je crois qu'il n'y a que 4 bouteilles qui ont été vraiment faites pour Gameblog. Absolument remarquable.
La cuvée Gameblog.
Et alors.
Moi j'ai goûté aussi.
Ouais.
C'est pas moi le plus poivreux d'ici, mais
j'ai goûté. Il est
très
remarquable.
Bon, hein. Ouais.
Et autre
merci.
Il est remarquable. Ouais. Superbe. Et un autre grand merci aux chers players que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur leur chaîne, mais aussi sur Gameblog.
C'est les Monégasques, c'est ça?
C'est les Monégasques. Ouais,
ah, donc ils ont trouvé une villa à Monaco, alors c'est bon?
Je suis allé les voir quand je suis passé à l'animé, au Mags.
Ouais. Non, Magic. Magic.
Voilà. Wow, c'était avant.
Ok, lâche ce verre.
Exactement. Et ils sont vraiment super sympas. Et on a sifflé une bouteille de limoncello quand je suis passé chez eux. Dans l'émission qu'on a fait ensemble, et du coup ils nous en ont renvoyé une autre, donc je pense que voilà, maintenant vous êtes tous au courant
que
vous n'êtes pas obligé de nous envoyer que de l'alcool, hein.
Envoyez vos bouteilles de Coca Light, je serais ravi de les boire à votre santé.
Et quand elles sont aussi bonnes que cela,
je pense
merci
qu'ils,
les gars,
je pense qu'ils veulent influencer les podcasts, je crois.
Bon, on n'est pas là pour parler d'alcool ou de problèmes d'addiction.
D'abord, c'est interdit. Hein.
Bon,
avec
déjà,
modération,
avec,
bien sûr.
Avec modération, évidemment. On va parler, et vous avez vu le titre évidemment de la news, les jeux vidéo c'était mieux avant, et nous on vous dit non en lettres capitales.
Bam ! Direct.
Alors, pourquoi on vous dit ça ? Parce qu'on vient de vivre un premier trimestre 2017, absolument.
Tony Truant.
Voilà, c'est le mot qui convient.
Rime,
moi j'allais dire ma boule, mais Tony Truant, ça
rime pas.
Ça, il y a une rime. Il est censé y avoir une rime.
T'as pas dit un truc qui finissait en ?
Non.
Bon, bah je croyais.
On va recommencer. Non, je plaisante, on commence pas le podcast du tout.
T'as pas
dit, non, pas du tout. On va parler des jeux évidemment qui sont sortis
t'as
au cours
absolument.
Du.
Bon, c'est pas grave.
Ouais, moi, franchement, j'ai aucun souvenir là avec l'Europe que je viens de voir. C'est un
Poufi ralenti.
Exactement.
Donc, on va parler des jeux évidemment qui sont sortis jusqu'à environ ce 23 mars 2017. Mais avant ça, on va parler aussi de l'actu parce qu'il y a eu pas mal de mouvements, pas mal de remous, pas mal de surprises aussi. Et on va faire un petit tour d'horizon de tout ce qui s'est passé bien pendant ces trois premiers mois qui se sont presque écoulés au moment où on est en train d'enregistrer ce podcast. Et on va évidemment tirer un bilan de tout ça à la fin du podcast.
Calmement. En se remémorant chaque instant.
Parler d'histoire d'avant comme si on avait 50 ans. Donc,
ouais. Le level de ce podcast.
Comme toujours.
C'est le rhum, ça ?
Non, pas du tout.
D'accord.
Absolument pas. On va commencer par une des nouvelles qui a marqué un peu l'esprit du grand public essentiellement au cours des trois premiers mois. C'est l'ouverture de l'E3 au grand public. Messieurs, on en avait déjà discuté pendant un podcast. C'est quand même une nouvelle assez particulière. On va dire, surtout qu'il faut payer.
Attendu quand même quelque part.
Attendu, oui, ça fait quand même quelques années. Mais c'est... bon, c'est
attendu surtout par les éditeurs.
Voilà, c'est pas comme si
par les joueurs.
C'est pas comme si les joueurs ils rentraient pas déjà tranquillement en disant oui.
C'est pas si simple que ça. Quand même.
Oui, il y avait des gamins de 12 ans, ils arrivaient avec des badges.
Oui, mais ça c'est souvent les enfants.
Il y avait, beaucoup de
là-bas.
Gens à l'E3, tu te demandais ce qu'ils foutaient là quand même.
Bien sûr, mais je veux dire comme c'est pas officiellement
là, tu
possible.
Vas en avoir encore plus.
Ah bah,
tu
peux non, mais là, choper, là au moins on saura pourquoi ils
sont
là.
Pourquoi ils sont là. Ouais.
Non, mais je trouve que c'est très bien. Ça veut dire que c'était aujourd'hui le dernier grand salon. C'est le plus gros salon de jeux vidéo par son impact. Et c'était le seul qui finalement n'était pas officiellement ouvert aux joueurs. Dans un sens, moi, il me semble que c'était le sens de l'histoire.
Rafraîchissez-moi la mémoire. C'est tous les jours que ça va être ouvert au public ou il y aura des jours
tous
professionnels
les jours,
oui. Tous les jours.
Ça, c'est une connerie, je pense.
Mais je dis ça comme ça.
Bah, par rapport au professionnel, tu veux dire.
Bah, parce que c'est comme ça que fonctionne effectivement le Tokyo Game Show et la Gamescom. C'est-à-dire que avoir des journées professionnelles, c'est bien aussi parce que ça permet de faire le boulot tel que tu le faisais avant.
Oui.
Et en même temps, tu as les journées publiques, le week-end.
D'autant plus que c'est le seul salon qui dure le moins longtemps, le 3.
Et en plus.
Parce que le TGS et la Gamescom durent plus longtemps.
Et que c'est pas le week-end.
Et bah, je pense que c'est l'étape d'après. Je pense que l'année prochaine, ils vont tirer un bilan de ça. Là, pour l'instant, ils ont filé. Enfin, ils ont filé. Ils ont vendu, mis en commercialisation d'ailleurs. On n'a pas eu de retour s'ils avaient tous vendu.
Non, il n'y a pas eu d'annonce de sold out ou quoi que ça, mais les billets sont tellement chers.
15 000 billets. Je pense que une fois qu'ils auront tiré les enseignements de cette année, ça m'étonnerait pas si c'est possible par rapport au jeu.
Changent un peu la formule, qu'ils améliorent la formule.
Ils aillent jusqu'au week-end et que là ils ouvrent vraiment.
Et qu'ils améliorent aussi la tarification parce que franchement,
tu baisses le prix. Tu rappelles le samedi dimanche, c'est 150 $ pour. Non, 250 $ et ceux qui avaient réservé la première journée.
Les Early Birds.
Et voilà, les Early Birds c'était 150.
S'ils font ça, ils vont devoir aussi un peu remanier la façon parce que tu n'accueilles pas le public de la même manière sur ton stand, je veux dire, quand tu es réservé aux professionnels ou quand d'un seul coup tu t'ouvres à tout le public. Il faut avoir plus de bornes, un cheminement différent sur le stand, machin, etc.
Oui, qu'ils fassent pas comme à la Gamescom,
vous le savez,
où ils détournent
mieux que personne, ils reprennent souvent des éléments de stand des années précédentes, parfois à l'identique. Donc ça veut dire aussi plus d'investissement, etc.
Alors après, il y a certaines personnes qui sont d'ores et déjà prêtes. Je pense par exemple à Sony qui fait un événement avec Romain. Ça fait la deuxième année qu'on a la chance d'y aller au PlayStation Experience, qui est vraiment là un salon qui est dédié aux fans de la marque, où on reconnaît d'ailleurs les mobiliers de l'E3
sont
remaniés un peu quoi, avec des trucs spécifiques, mais plein de bornes, c'est ouvert au public
quand tu regardes. Rigolo pour vérifier les mecs, c'est que vous mettiez un petit truc, un petit genre un cœur ou Romain was here ou un truc comme ça pour être sûr de le retrouver à l'E3 après ou au PlayStation Experience. Oui,
mais par contre il y a toujours les rendez-vous, tu sais,
sur les concours
en haut. Donc là on aura ce truc séparé, mais moi ce que je me demande, c'est est-ce que cette ouverture au public va marquer le retour des stands spectaculaire qu'on pouvait voir, que moi je voyais dans la presse quand j'étais gamin, tu vois, parce que moi le 3 que je vis de l'intérieur depuis 2 ans, il y a des beaux stands, etc., mais c'est quand même pas le showtime que ça a pu être à une époque. Et est-ce que l'ouverture au public, parce qu'il faut les attirer, faut les captiver,
le stand Zelda l'année dernière il était incroyable, celui
c'était
de
un peu exception aussi, peut-être, mais il y en avait pas beaucoup des comme ça. Il y avait la maison de Resident Evil,
je pense qu'il y a jamais eu un stand comme celui de Zelda,
la maison de Resident Evil qui était plutôt chouette aussi, mais avant t'avais des comédiens qui se baladaient en costume, t'avais plein de trucs, et des matchs de catch directement dans le salon ou des concerts ou des trucs comme ça. Là, il n'y a plus trop ça.
Pas sûr que ce soit désormais l'ambiance. Et quelque part, l'attractivité de l'E3 est tellement forte que tu n'en as pas besoin. C'est-à-dire que demain, tu dis l'E3 est ouvert au public pour 25 balles, quoi, ce qui ferait 25 $, c'est l'équivalent d'une Paris Games Week, etc. T'inquiète que du monde, tu vas en avoir par pelleté. Hein.
Ouais, mais là, le truc, c'est que tu demandes aux gens de dépenser une somme d'argent conséquente.
Ça, c'est le cas à chaque fois.
En plus, oui, mais ils vont devoir faire la queue pour, comme dans tous les salons de ce type, faire la queue pour pouvoir essayer le jeu. Mais pour que les gens viennent faire la queue sur ton stand pour jouer à ton jeu, il faut attirer leur attention. Et si t'as juste ta petite borne avec ton PLV dans un coin, comme c'est le cas sur certains stands à l'E3, bah c'est pas forcément ça qui va les capter. Genre un sound system qui gueule avec des stands super impressionnants. Là par exemple le stand de Mafia 3 aussi était plutôt chouette.
Tu devrais venir à la Gamescom Romain si tu veux voir ça.
Non, c'est pas ce que je veux voir, c'est une question que je me pose. Est-ce que ce genre de choses vont revenir avec l'ouverture au public? C'est tout, c'est juste une question.
D'accord, en tout cas on sait aussi que EA a déjà balancé carrément les dates pour son EA Play, donc qui est en marge de l'E3 un petit peu avant, même c'est le samedi ou le dimanche, le samedi déjà. Bethesda a déjà donné la date. L'EA Play aura
Microsoft, puisque là on parle de cette année, de ce trimestre complètement dingue avec des informations. On va parler des jeux tout à l'heure, des machines,
absolument,
mais donc des infos. C'est quand même un peu tonitruant. Microsoft décale sa conférence et donc sera dès le dimanche soir. Ils ont l'habitude d'être le lundi matin, je parle des horaires américaines,
et c'est déjà les premiers à tirer en général
en
termes de conférence.
Ouais, mais là en plus
constructeur, oui.
Si je dis pas de bêtises, Bethesda c'est après, donc ils ne seront pas les premiers du tout.
Bethesda c'était dimanche soir l'année dernière.
Ah oui, c'est vrai, Bethesda nous c'était dimanche 5h du mat.
Pour l'instant ils ont annoncé une conférence déjà, Bethesda,
bien sûr, et d'ailleurs ils ont même réagi au décalage de Microsoft en disant en gros on sentait qu'ils étaient quand même un peu piqués, et ils disaient c'est flatteur de se faire copier, mais nous ne changerons pas nos plans.
Non, mais tu te rends compte, tu te souviens où était la conf Bethesda l'année dernière, pour vous tout vous dire, c'était en banlieue de Los Angeles, mais dans une zone genre au milieu de nulle part, vraiment.
Et donc là ça a été compliqué.
Si, ouais, ça a été super compliqué pour repartir. Et si les conférences Xbox et Bethesda s'enchaînent et qu'elles sont à l'opposé de Los Angeles, il y a forcément des gens qui vont rater soit la fin de Microsoft, soit le début de Bethesda. Enfin, ça va poser des problèmes niveau organisation.
Mais c'est pour ça que Bethesda a été moyennement content. Parce que
c'est bizarre qu'ils se tiennent pas au courant.
Ils savent que quand t'as la conf Microsoft qui va prendre de la place, quoi, surtout qu'il va avoir la Scorpio, etc. Mm. Que si on lit entre les lignes ce que dit Phil Spencer, tu sens qu'ils n'ont pas encore fixé totalement l'horaire, enfin jusqu'où ils iront.
Oui, s'ils veulent plus de temps.
Etc. En gros, ils vont faire ce qu'ils veulent. Hein. Et potentiellement, je crains que cette année, si on va jusqu'au bout de la conf Microsoft, si on veut tourner des petits plateaux, il est possible qu'on rate en tout cas le début de Bethesda. Mm.
Et ça serait dommage vu si on a encore cette personne qui hurle pendant toute la conférence Bethesda comme c'était le cas l'année dernière.
Remarque, l'année dernière, on pouvait pas travailler à la conférence Bethesda. Donc
c'est vrai aussi.
Si on a une à rater.
Ouh! Shots fired again.
Ah bah, elle sera évidemment à suivre sur Gameblog en live, etc. Mais je veux dire, à traiter sur place l'année dernière, on n'avait pas le droit. Tout simplement.
En tout cas,
on pouvait pas.
À donc, plein de niveaux différents.
Prenez des micros avec fil cette fois, peut-être que ça marchera.
Ouais. Pierre, vas-y, prends ton fil comme ça.
Allez, suis-moi.
20 mètres carrés. Blam, 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 blam.
Qui sait.
En tout cas, gros chamboulement au niveau de l'E3 à plein de niveaux cette année. Hein, ça, organisation des stands, ouverture au public, organisation des conférences, etc. Tout va changer.
Et nous n'avons pas encore l'officialisation ou non d'une conférence Nintendo, du retour des conférences Nintendo, entre guillemets, maintenant il y a la place. Lundi matin, Nintendo, si tu veux.
On reparlera Nintendo tout à l'heure, mais oui, il y a la place.
Square
pour
en faire une aussi, parce qu'ils en ont pas fait cette année, enfin l'année dernière, mais il y en avait avant. Enfin, ça peut y avoir
encore
des changements.
Plein de choses. Plein de choses pour cette E3. On a parlé de Microsoft, on va continuer avec Microsoft parce qu'ils ont fait une annonce aussi tonitruante. On va utiliser le mot tonitruant à peu près à chaque fois.
Bah, c'est marrant parce que c'était tonitruant effectivement dans le concept, mais finalement on n'a pas beaucoup parlé. Hein.
Mais je pense que ça, ils vont en reparler à l'E3.
En fait, c'est là où tu te rends compte du problème entre guillemets.
On va dire ce que c'est quand même, le Xbox Game Pass. Qui permet de jouer à un catalogue de jeux très précis. C'est plus d'une centaine de jeux
en
accès libre. Comme
par abonnement.
Comme ce que propose l'EA Access par exemple avec son Vault, avec des jeux.
Pour résumer, on peut dire
que
c'est le Netflix quoi, de la Xbox.
Sauf que c'est pas du streaming.
Oui,
c'est
mais peu importe, je veux dire, le concept c'est tu payes un forfait mensuel et t'accèdes à tout ce que tu veux dans ce truc-là.
Mais effectivement, c'est pas pendant la limité d'ailleurs. Streaming, mais...
Non, en fait, c'est un peu comme Netflix. Je pense que ça va surtout être pour les jeux tiers. Mm-hmm. En fait, sur Netflix, les films ne sont pas disponibles, les films et les séries ne sont pas disponibles indéfiniment. Toutes les productions Netflix, elles restent, mais ce qui est sous contrat avec d'autres studios, etc., sont des contrats temporaires. Donc là, je pense que ça va être pareil. Il y aura une légère rotation de jeux. Certains arriveront, d'autres partiront, mais il y aura au moins toujours plus d'une centaine. Et je pense que le but de Microsoft, c'est de proposer plus de jeux que ça.
Et Phil Spencer...
Pour 10 euros quand même. Enfin, 10 dollars, donc 10 euros a priori. C'est...
Alors, pour l'instant, les jeux qu'on voit, c'est pas forcément de première fraîcheur, mais Phil Spencer a quand même souligné...
Qui lui est première fraîcheur, par
contre. Qui est totalement freshness, mais a souligné qu'il voulait, enfin qu'il tenterait, qu'il essaierait de proposer des jeux très proches de leur sortie. Et là, ça peut changer quelque chose quand même, parce que si t'as le nouveau Halo, si t'as... Moi, je pense déjà à Microsoft.
C'est pas le cas dans les premiers jeux annoncés. Hein,
voilà.
En tout cas,
pour l'instant, non, mais comme il a dit, bon, on va essayer de faire ça. Je pense d'abord, dans un premier temps, aux jeux Microsoft. C'est les plus faciles à convaincre, puisque c'est eux-mêmes. Si tu payes 10 balles et que t'as le jeu quand il sort... Je veux dire, dès ton premier jeu, tu l'as remboursé en fait ton abonnement. Donc, je trouve ce service, s'il prend de l'étoffe, extrêmement séduisant.
Et ça peut être aussi un bon moyen de distribution pour les, pour les éditeurs plus petits, enfin pour les indés, etc. Parce que ça peut avoir une certaine mise en lumière.
Ouais,
et
pour
en plus,
pour les jeux qui ne sont pas forcément les triple A ou qui ne sont pas des indés qu'on a dans la lumière obligatoirement, ça peut être un bon moyen justement d'être joué. Oui.
Et aussi pour les jeux épisodiques. Je trouve que c'est un système, quand on voit les nouvelles séries qui sont ajoutées sur Netflix, ça marche plutôt bien. Donc ça peut être cool. Mais ce que j'allais dire avant que tu donnes le nom du programme, c'est qu'en fait c'est un symptomatique de la situation dans laquelle Microsoft est médiatiquement en ce moment. On sent qu'ils sont troisième à ce niveau-là, loin derrière Sony et Nintendo. Parce que Microsoft annonce le Game Pass au moment de l'annonce de la Xbox One, par exemple, le bruit médiatique est pas du tout le même.
Oui. Et là, on parlait de la Switch à ce moment-là.
On en a parlé. En plus, oui, ça a intéressé un certain nombre de personnes, mais c'est quand même un gros service. C'est payer 10 euros pour jouer de manière illimitée à plus d'une centaine de jeux. Enfin, ça représente quelque chose quand même. C'est, si vous n'êtes pas à cheval sur la nouveauté et que vous n'avez pas forcément besoin de jouer au dernier jeu,
ça a finalement peu fait de bruit, je trouve.
Et c'est ça, mais c'est, je te dis, c'est un problème que Microsoft a en ce moment.
Ah bah, ils se traînent ça depuis 2-3 ans maintenant.
Ouais.
Ah, ça commence à durer.
Mais là, ce trimestre, on dit qu'il est extraordinaire, qu'il est tonitruant, machin. C'est vrai que le dindon de la farce de cette histoire, c'est quand même Microsoft qui, par contre, est vraiment sous les ténoirs. Je pense fondamentalement
ils ont eu Halo Wars 2,
que le 3 va être un gros temps de communication pour Microsoft, mais un peu le juge de paix, j'ai presque envie de dire, là, des deux prochaines années.
C'est-à-dire de cette génération pour Microsoft.
Hein. Parce que si c'est pas tonitruant, ce sera flippant.
Bah, le 3 de la dernière chance pour Microsoft alors ?
Ah bah,
pour
cette génération, là, on peut le dire. Oui. Ouais. Non, pour la Xbox One.
Oui, voilà,
pour cette génération.
Oui, clairement.
Et là. En comparaison du PlayStation Now, qui lui aussi s'est étoffé un petit peu dernièrement, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce...
Le truc, c'est que pour moi, la grosse différence, enfin la différence fondamentale, c'est que le Xbox Game Pass te permet de télécharger les jeux. Donc même si tu es dans une zone où ta connexion n'est pas formidable, on va dire que tu peux le laisser tourner toute une nuit pour récupérer le jeu dont tu as envie. Si tu joues en streaming, ce qui est le cas du PlayStation Now, et que ta connexion est moisie, bah, tu ne pourras pas y jouer de toute façon. Donc ça, pour le coup, je pense que pour le Game Pass, c'est un avantage.
Le PlayStation Now qui a accueilli des jeux PS4.
Alors ça, c'est la grosse nouveauté du PlayStation Now, c'est que maintenant, enfin, ou dans le courant d'année, et d'abord aux États-Unis et en Europe par la suite, eh ben, on pourra aussi avoir les jeux PS4 en streaming. Donc évidemment, ça ne sera pas forcément les dernières nouveautés non plus, mais ils vont en ajouter progressivement.
Mais il y aura le plus important.
Est-ce qu'il
y aura que Knack.
Certainement Knack. Bah, c'est l'abonnement seller. Et donc en fait, c'est que ce qui est la symbolique forte de ce truc-là, c'est qu'à partir de la mise en place du catalogue PS4 sur PlayStation Now, ça veut dire que vous pouvez techniquement jouer au jeu PS4 sans avoir de PS4. Vous avez un PC, ça suffit. PC, une bonne connexion.
J'aimerais vous poser une question à vous.
Pas un PC de gamer, hein, précisons-le, parce que c'est juste
non,
du streaming.
Non, on s'en fout. C'est juste du streaming.
Juste une connexion. Juste une bonne connexion, ouais.
Donc je vous pose la question à vous trois, et je vous la pose à vous qui nous écoutez. Le PS Now, ça marche ou pas ? Je veux dire, fonctionnellement, oui, ça marche pas trop mal, mais il y a des gens qui l'utilisent. J'ai l'impression d'en entendre jamais parler.
Le truc, c'est qu'officiellement,
personne
en Europe est toujours en phase de bêta, donc il n'y a pas eu de lancement majeur. Et comme c'est une bêta, il n'y a pas encore eu le push marketing qui, je pense, pourra venir par la suite.
C'est quand même
ils
un truc
peut-être envie de continuer à vendre des PS4 aussi.
Moi, j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui pour
l'instant en avant en fin de génération. C'est possible.
Parce que la bêta et le PS Now, on n'en a pas entendu parler il y a 6 mois, ni 8 mois, ni 1 an. Hein, ça fait des années. Rappelez-vous, c'était... Comment il s'appelle ?
Le modèle tarifaire n'est pas bon, moi, je trouve.
Notre ami de Gakai, là, qui a fait...
David Perry.
Ouais. Parce que derrière, c'est David Perry. Hein. Bah, c'est une signature et c'est des annonces à l'E3 d'il y a 3 ou 4 ans. Et aujourd'hui, c'est toujours vraiment pas dans les tuyaux. Hein. C'est évanescent.
Mais ce qui est dingue, c'est que pourtant ça marche. Quoi. Enfin,
la technologie fonctionne bien.
Ouais, moi je m'étais mis sur. Vous vous rappelez de OnLive ? C'était le concurrent justement de Gakai. Mmh,
absolument, oui. Camille
a clé sous la porte aussi.
Pourtant, ça marchait mieux.
Mais oui, mais ils étaient là trop tôt, je pense, tout simplement. Et pourtant, technologiquement, techniquement, avec une connexion fibre, ça marchait super bien.
Bah moi j'avais.
Et à l'époque, la fibre n'était même pas démocratisée, c'était même pas avec la fibre qu'on y arrivait. Voilà, donc,
moi j'avais essayé Gaikai avec. C'était une bêta de Gaikai avec un MacBook, mais genre. Qui était déjà pas capable de faire tourner des jeux Mac, donc pour vous dire, pour les jeux PC c'était rien à voir. J'étais même pas en fibre, j'avais juste une très bonne connexion ADSL et j'avais joué à Bulletstorm, je me rappelle, sur mon Mac, et ça marchait mais super bien. Super impressionnant comme technologie.
Et ça
vraiment.
C'était il y a 4 ans
au moins,
plus que ça j'étais encore à JVM, donc en 2010 ou 2011
ça marchait super bien. Et c'est toujours pas. Mais moi, à mon avis, c'est leur modèle. T'as pas envie d'acheter les jeux sur le PlayStation Now ou de les louer si cher. Enfin, je me rappelle plus exactement des prix. Il faudrait qu'on retourne là-dedans pour voir. Mais ça m'avait
c'est
paru
entre 15,
super cher.
C'est entre 15 et $20 par mois, je crois, si, de mémoire.
Mais c'était pas pour un accès illimité. Illimité, je veux dire.
Bah, si. T'as accès à tous les jeux pour ça.
Ah, bah, moi, j'avais vu le PlayStation Now où tu devais louer chaque jeu.
Je crois que ça doit. C'est plus comme ça. Hein.
Ah, si. Pendant la bêta,
j'en sais rien. Je suis désolé, je peux pas t'aider là-dessus.
Ah bah moi c'est ça que j'avais trouvé du bon,
mais ça me dit rien.
Peut-être qu'ils ont changé le modèle, mais il fut un temps où pendant la bêta, le modèle c'était de te le faire louer ou acheter chaque jeu séparément.
Alors je, pendant que vous parlez, je vais vérifier.
Bah ouais. Très bien. En tout cas, le système de location peut être l'avenir du jeu vidéo, sait-on jamais.
Mais j'en suis sûr.
Bah, c'est certain. Ouais.
Quand tu regardes à quel point la VOD pour le cinéma, pour les même pour la télé de rattrapage, est en train de prendre une place très importante. C'est tellement intuitif, efficace, rapide, machin.
Il y a toujours chez nous, les joueurs de jeux vidéo, il y a toujours ce désir de vouloir posséder la chose,
c'est
de l'avoir
vrai,
dans la poche.
Et c'est pas vrai.
On va dire c'est de moins en moins vrai.
Ouais, c'est de moins en moins vrai.
Tu vois le démat et le succès du démat. Alors malheureusement, avec le démat, on n'a pas les chiffres clés. Mais enfin, dès que t'en parles un peu avec des gens dans l'industrie, tu te rends compte que pour certaines boîtes, c'est maintenant des proportions extrêmement importantes. Et ce n'est qu'en progression.
On va dire que pour certains jeux, on a vraiment envie d'avoir la petite statuette qui va bien.
Alors tu vois, moi par exemple,
le DVD qui va, ou le Blu-ray, pardon.
Je suis un joueur. Je suis même considéré potentiellement comme un vieux joueur. Tu vois, c'est 30 ans que je joue. Avoir la boîte est pour moi limite maintenant un frein parce que j'ai pas envie de remplir des étagères. Là, tu vois, j'ai acheté un petit meuble là. Je vois que ce putain de meuble est rempli à 70% par des jeux dont la plupart, je n'y retoucherai pas, peut-être de ma vie. Et je me dis, mais c'est une aberration. Bah, je les aurais sur un disque dur, ça marcherait très bien. Ce serait très, très bien. Moi, par exemple, je fais partie de ces gens. Le démat, je l'embrasse de tout. Je le prends à deux bras. Quoi.
D'accord, mais fais croquer les petits frères hein, pour les jeux.
C'est des vieux jeux.
Romain,
alors, j'ai l'info. PlayStation Now, c'est un abonnement illimité. 16,99€ par mois.
Ah bon ?
Oui.
Ah, bah, ça, actuellement, alors.
Oui.
Moi, je t'assure que vraiment, j'avais été hyper déçu par le modèle économique.
Alors, peut-être que tu peux faire les deux. Hein,
peut-être pour les jeux récents,
peut-être changé,
c'est
peut-être
pas pareil, etc.
En tout cas,
c'est mieux avec un
abonnement illimité. Plus de 350 jeux.
Et donc, 16€ par mois.
16,99€. 17€ pour un accès illimité à plus de 350 jeux.
C'est très raisonnable, du coup.
Et en plus, alors après, c'est pas vraiment la même chose. Mais moi, récemment, je me suis mis à utiliser le Remote Play.
Bah, ça, c'est extraordinaire.
Et ça marche.
On a un spécialiste à la rédac, c'est Johnny Wall.
Ça marche déjà super bien. Sur mon ordi du bureau qui est pas puissant du tout, je joue à ma PS4 qui est chez moi et ça marche vraiment très
message.
Bien. Donc...
Nos ordis ne sont pas puissants. Voilà.
Non mais ce que je veux dire, c'est que moi je suis attaché aux boîtes et à l'objet, je suis collectionneur, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Mais malgré tout, le démat, ça a une utilité, ça rend les choses tellement plus pratiques. C'est assez dingue. Hein. On vit dans une époque incroyable.
Ouais,
Tony
fou,
Truant
hein.
même.
C'est fou hein, le démat. Hein.
C'est quoi la suite Tony Truant de
la
podcast.
Suite Tony Truant, ce sont des grosses surprises, mine de rien. On va parler de départ.
Tony
de,
Truant, celui-là.
De départ Tony Truant.
Ah, attends, tu
l'attendais? De deux personnages très. Comment dire?
Tony Truant.
Oh putain, ça y est, je vais plus réussir à le dire.
Séduisant.
Très séduisant du jeu vidéo, oui.
Avec du talent.
En tout cas, le premier est plus séduisant. Ben, ouais, après, il est britannique, l'autre remarque. Il est pas... Bref, Christophe Balestra, pour commencer, qui
Balestra.
A quitté Naughty Dog. Il était vice-président de Naughty Dog depuis plusieurs années. Et là, ça y est, il a décidé de se barrer.
Officiellement, le 3 avril, ce sera son dernier jour.
Ouais.
Il invoque, lui, officiellement des
raisons
familiales.
Voilà.
Une envie de courir.
Voilà. bah, tu sais, en vrai. Quand tu as été coprésident de, je crois, on peut dire, sur la dernière décennie, l'une, si ce n'est la boîte la plus à la pointe,
l'une des plus influentes,
qualitativement parlant, du jeu vidéo, qui a sorti quand même de nombreux jeux, tous auréolés de minimum, je sais pas, 94 métacritiques, où tu as gagné ta vie extrêmement bien, où tes enfants, fais le calcul, arrivent à l'adolescence et plus.
Tu te rappelles toujours pas leur nom, parce que tu les vois pas souvent.
Bah, tu te dis que tu as de toute manière la capacité à pouvoir donner cette fois-ci du temps à ta famille, alors que je pense que tu as dû donner beaucoup de temps à ta boîte, que tu n'as pas de problème d'argent et que demain, si tu as envie de revenir dans le game,
on fera
toutes les portes sont ouvertes. Salut, Christophe, machin, et c'est fini. Hein.
Et il y a aussi
c'est
les.
C'est très bien qu'ils le fassent.
Souvent, ce genre d'individus créatifs et très drivés, comme on dit, ont besoin de challenge, justement. Quand tu arrives au point où tu es coprésident de Naughty Dog, qui sort des jeux à la pointe, on va dire, bah. C'est trop confortable presque. T'as besoin de défis, t'as besoin de presque de repartir à zéro et de relancer de nouveaux projets, etc. Donc c'est pour ça que souvent, des gens au sommet de leur carrière bah, se barrent et cherchent à
ça
faire autre chose.
Ça se
trouve,
on va le retrouver cuisinier dans un boui-boui à Los Angeles,
non,
il fera des côtes de bœuf.
Doublure de Leonardo DiCaprio à Hollywood, ça marche très bien.
N'exagérons rien.
Bah, les premiers m'apprécieront.
Par contre, par pur égoïsme, je trouve ça. Ce qui m'embête dans cette histoire, c'est que ça nous fait perdre un interlocuteur français important.
Ouais, c'est vrai.
Quand t'as quelqu'un de haut placé comme ça, francophone, c'est toujours pratique pour les interviews, trucs comme ça. Donc, bon, c'est non, un mais peu c'est dommage
pas,
à ce niveau-là.
Tu dis ça, mais ton anglais est impeccable, Romain. Donc, tu n'auras pas de problème.
Oui, mais ça fait gagner du temps. Mais ça fait gagner du temps d'interview. Et même, c'est valorisant pour les Français. Regardez.
Bah, surtout que les Français, donc, t'arrives. Tu dis, t'es français, tu check et tout, ouais, tu viens d'où? Ah, moi je suis de machin. Ah, t'es de là? T'es parisien toi? Ah, moi je suis marseillais. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Puis tout le monde se met
et
sur la gueule.
En plus, les RP ils aiment pas parce qu'ils nous surveillent et comme ils comprennent pas, ça les agace. Je sais quand je fais des interviews en français et que c'est un RP étranger, ça les agace.
Ouais, c'est vrai.
Ils peuvent pas contrôler.
Enfin bon, on souhaite bon vent à Christophe Balestra, évidemment, pour la suite de sa vie familiale et de ses aventures, parce qu'il reviendra.
Il a dit qu'il allait continuer de coder, donc on ne sait-on jamais.
Mais coder quoi?
Des projets personnels.
Il va coder décalé.
Jean-François Codet peut-être aussi, non? Alors, l'autre personnage qui a décidé de quitter le videogame. Bah alors là, c'est bravo. Plus qu'une surprise. C'est une surprise et un rêve de gosse qui sont mélangés l'un à l'autre.
Zoom, poufie,
en
zoom.
Fait, c'est Peter Moore dont on a appris le départ d'Electronic Arts pour cet été parce qu'il va reprendre les rênes, figurez-vous, du club de Liverpool, du club de football de Liverpool.
Ville du, club, laquelle... du club, le fucking Blue Boys, je m'attendais à un truc.
Mais cela ne nous regarde pas.
Du Pink Paradise. Voilà, Peter Moore au Pink Paradise, sort tatoué Love Amour
le
aussi.
Liverpool,
ici, voilà.
FC. Il aime bien
les tatouages, donc.
Ouais. Mais non, mais c'est la
une
grosse,
belle équipe,
grosse surprise
en plus. Club dont il est fan vraiment en fait.
Mais il est né à Liverpool. Il est britannique, donc forcément la culture du football pour un britannique c'est quelque chose de très important.
Il parlait plus de foot et de FIFA depuis 3
voilà.
ans. Là,
chaque britannique est attaché au club de sa ville, c'est comme ça, c'est dans leur culture. Et là il va devenir président de Liverpool. Alors je sais pas s'il proposera des joueurs en DLC à Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, mais en tout cas c'était un peu le choc. En se réveillant, je ne sais plus quel jour du mois de février, de dire OK, Peter Moore va diriger Liverpool. Un de ces quatre.
Ce qui est génial, c'est
que
les footeux et les gens du monde au global qui connaissent pas le jeu vidéo, ils se disent mais qui c'est ce mec qui débarque alors que nous on voit une figure ultra connue qui est là depuis tant d'années. Ce mec il a lancé.
Kojima va reprendre l'Olympique de Marseille.
Il a lancé la Dreamcast. Pas lancé la Dreamcast, mais il a pris le relais, on va dire.
Il a pris le relais un peu après.
C'est lui qui était à la fin de la Dreamcast. C'est lui qui a fait tomber.
Mais enfin, je veux dire, ce mec il a tout fait. C'est notre baroudeur,
Microsoft quand même au moment où il relevait son truc avec le tatouage de GTA, de Halo, etc. Enfin,
ouais,
c'est un personnage.
C'est un vrai personnage de notre industrie.
C'est un mec sympathique aussi, hein, on peut le dire.
Encore un bon qui s'en va d'ailleurs. Finalement.
Ouais, c'est triste. Bah, Peter Moore, je l'aimais bien, même
moi
si chez certains fans de Sega, il a toujours gardé une image assez négative. Mais c'est vrai qu'il y a des moments forts de l'histoire récente du jeu vidéo qui sont liés aux interventions de Peter Moore. Donc c'est
quelqu'un qui était très très bon sur Twitter, qui l'est encore d'ailleurs. Hein, quand on l'agresse un petit peu, quand on vient le chatouiller, n'hésite pas à.
Et il a.
Oui, c'est vraiment lui. Oui,
et il a Ryo Hazuki dans sa bannière Twitter. Donc c'est un gage.
C'est un homme de goût donc.
En fait, il a des. C'est un mélange de jeux sur lesquels il a travaillé, fin de ses gros projets de carrière. Donc t'as Ryo Hazuki parce que c'était un fan de Shenmue. D'ailleurs il avait raconté qu'une fois il s'était fait à l'aéroport, il avait présenté son passeport à un agent qui lui avait dit j'ai pas besoin de voir votre passeport, je sais que c'est vous qui avez donné Shenmue à la Xbox. Et donc il lui en voulait pour ça, donc il s'en amuse fréquemment.
Bon, en tout cas, belle surprise pour Peter Moore, à qui on souhaite aussi bon vent à Liverpool. Hein, qui sait, peut-être que ça va être le retour.
Good wind, comme on dit.
Good year aussi. On souhaite donc que, évidemment, Liverpool s'en sorte bien avec lui. Peut-être que ça va être le retour des trophées. N'oublions pas que Liverpool n'est plus le club le plus titré d'Angleterre. C'est Manchester United qui a gagné un trophée il n'y a pas très longtemps, la FA Cup, je crois. Et du coup, qui sont repassés devant. Donc, le match est relancé. Peut-être que Peter Moore va aider à changer tout ça. Maintenant, on va parler console, messieurs, parce que le premier trimestre.
Déjà, t'as vu comme c'est rempli là ? Je sais pas combien de temps on a passé dessus, mais.
Oh là là.
Mais ça, c'est en 2 mois et demi, quoi. Oh en 2 mois et demi, il y a déjà eu beaucoup de choses.
Ah, il y a eu un paquet de trucs, et encore, on en a oublié. Hein. Là, où, par exemple, aujourd'hui, au moment où on enregistre le podcast, aujourd'hui, il y a Brian Fargo, le légendaire développeur de The Bard's Tale, qui a repris. À qui on doit aussi la création d'Interplay, et de Inxile Entertainment, et du réseau du site de financement participatif FIG, qui a annoncé qu'après 2019, après la sortie de Westland 3, il allait se tirer. Vous voyez, ça fait partie des mecs.
Se tirer du jeu vidéo ?
Du jeu vidéo, ouais.
Tu sais ce que je veux te dire ? Ouais. Je pense que là, dans les 5 prochaines années, ils vont être nombreux à se barrer.
Bah ouais, bah en même temps.
Vraiment. Pour en parler avec beaucoup, Je sens qu'il y a un gros, il y a une grosse vague de départ. Il y a une espèce de profonde et sincère lassitude de beaucoup de gens
attends,
sur
cette industrie. Ça fait 36 ans qu'il est dans le milieu, donc je pense qu'au bout d'un moment, oui, tu as peut-être fait le tour.
Il y en a d'autres qui vont pas rester longtemps.
C'est vrai, t'as des noms.
Shigeru M.
J'ai au moins deux noms en tête, ouais.
Ok, tu nous les donneras après le podcast. Console donc.
Je crois
qu'il y a une console. Vous êtes tous les deux lamentables. Il y a une console qui est sortie le 3 mars dernier. À partir depuis le 13 janvier, on va dire, depuis son annonce et nos premières prises en main, l'effervescence est montée d'un cran. Pour ne jamais retomber finalement.
Donc la Switch. Hein,
c'est la Nintendo Switch évidemment.
Pas l'image.
C'est pas le truc avec John Cena qu'on voit l'image. Mais ça ressemble à peu près. Bref, la Nintendo Switch est sortie le 3 mars. Et on en est tous plutôt satisfaits.
C'est simple, allumé ma Xbox et ma PS4 depuis le lancement de la Switch. Parce que Zelda.
Ouais, parce que Zelda.
Ce jeu prend tout ton temps, c'est un truc de fou. Hein,
dont on va évidemment parler aussi ensuite, Zelda. Mais oui, la Switch a un peu attiré l'attention sur elle pendant ces trois premiers mois.
Un point c'est tout, un point Zelda.
Moi je voudrais lancer Romain quand même qui pensait pas du tout que cette console allait faire un bon démarrage. Romain, est-ce que tu crois beaucoup plus qu'il y a quelques semaines? Non mais faut être honnête aussi, on se disait, on se pose souvent la question, est-ce qu'ils sont capables de refaire ce qu'a fait la Wii?
En termes de lancement,
vraiment on était très très loin d'imaginer qu'ils pourraient atteindre le niveau de la Wii. Et en même temps, on se disait, ça va faire beaucoup mieux que la Wii U parce que c'était une catastrophe.
En même temps, on a quand même dit qu'il y avait beaucoup d'éléments qu'on sentait. Ouais.
Mais non, mais on n'osait pas trop encore l'affirmer. C'est-à-dire que maintenant, on est beaucoup plus à l'aise aujourd'hui quand on voit la hype qu'il y a. Les chiffres que Nintendo partage pas mais qui disent être sur le même trend que la Wii.
C'est GameStop qui en parle. Et GameStop également qui en parle. Une très grosse enseigne américaine qui dit qu'elle risque d'éclipser la Wii.
C'est fou. Bon. Ça a duré des années la Wii, donc faut voir. Mais c'est vrai que on s'imaginait peut-être pas qu'elle aurait un tel accueil. Et un tel.
Je demande à ce qu'on retrouve les images parce que moi je vous l'avais dit.
Ouais, moi je suis pareil parce que c'est ce qu'on avait dit. On avait dit il suffit de regarder. Et pour moi, Gameblog aujourd'hui, grâce à vous, est un très bon indicateur des tendances. Et véritablement, dès qu'on parle, et encore aujourd'hui, de la Switch, c'est des cartons d'audience systématiquement. Ça veut dire quelque chose. Et les sondages qu'on avait fait quand même indiquaient clairement qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui avaient envie de sauter le pas.
Oui, mais de là à dire qu'elle allait faire les 100 millions, etc., on n'était pas forcément à l'aise. Disons qu'aujourd'hui, on parie.
Moi je pense qu'aujourd'hui, il faut être pas sûr encore.
Je pense toujours pas qu'il y
aura 100
millions. Mais on
le parierait plus facilement aujourd'hui qu'avant le lancement, je pense.
Mais
en tout cas, c'est mon cas.
Alors là, je vais vous poser une question, toute proportion gardée en termes d'audience, parce qu'à l'époque, c'était pas la même chose. Mais au moment de la sortie de la Wii, est-ce que toutes les news faites aussi... Gameblog n'existait pas au moment de la sortie de la Wii.
Gameblog arrivait juste après.
Et voilà.
Je me demandais si l'audience, pour les sites existants, est-ce que l'audience avait connu un boost de ouf avec la Wii.
C'est que depuis 3 ans. Que les datas de Gameblog sont assez en phase avec ce qui se passe. Parce qu'il faut atteindre une masse critique quoi, pour devenir entre guillemets aussi toucher du grand public. Quand tu touches que des gamers, t'as à peu près les stats des gamers quoi. Mais quand t'es dans la Switch, quand t'es dans les gros jeux, il faut toucher un peu tout le monde en fait. Maintenant on sait un peu quand ça va prendre ou ça prend pas quoi.
C'est pour ça aussi, parce que les commentaires, les sondages, etc., sont quand même vus et utilisés principalement par des gamers assez avertis. Donc je sais pas si
c'est pour ça qu'il faut pas
vraiment
sondages,
une retransmission
le nombre de
du
vues.
Public.
C'est le nombre de vues.
Ouais.
Parce que les vues, c'est juste un indice de je vote, j'ai envie de je m'intéresse à voter, ça c'est encore une chose, d'autant que c'est quelques milliers de personnes versus des millions. Donc...
C'est surtout qu'en fait, le nombre de vues, j'allais dire plutôt la hype, depuis l'annonce de la NX. Finalement, c'est un essai transformé pour Nintendo largement en termes de vente.
Le souffler, c'est pas dégonflé.
Non. Et bon, après, ce n'est que le lancement, évidemment.
Non, mais regarde,
vous manquerez pas de nous le dire dans les commentaires. Ouais, vous enflammez pas. Ça fait que un mois, même pas, etc.
Vous inquiétez pas, je m'enflamme pas.
Même notre appréciation personnelle à nous depuis qu'on l'a. Enfin, je sais que le concept, je trouvais déjà vraiment très très bon. La console portable emmenée par la console de salon emmenée partout. C'est juste vraiment kiffant quoi. Moi, je sais, je joue beaucoup à Zelda en ce moment. J'y joue en mode portable quand je suis dans mon pieu ou alors quand je suis
aux toilettes,
à la
Reda,
aux toilettes, machin. Chez moi, alors je sais pas si c'est parce que je passe par un ampli ou quoi. Même quand tout est éteint, la télé est éteinte, je mets la console dans le dock, ça allume la télé aussi chez moi. Je sais pas si c'est le cas chez vous.
C'est l'option dans le truc.
Ah voilà, ça allume la télé.
Directement.
C'est surpuissant, ça.
Ah, c'est génial. En
fait, j'ai encore jamais sorti Doc, donc je
et j'ai l'impression d'être dans la pub. Si non, tu veux. J'ai l'impression d'être dans la pub parce que ma manette est posée comme ça, nonchalamment, pas trop loin de la télé. J'arrive, tout est éteint, je mets la console, clac. J'étais en train de jouer, je mets la console, bim, hop, je ramasse la manette, j'ai l'image directement. Je te jure, il y a un côté.
Mais ce qui est marrant, ce que tu dis.
Ça marche, quoi. Enfin,
ce que tu dis, parce que j'ai lu que sur certaines télé Samsung. Quand tu mets quand tu actives cette fonctionnalité, bah la console, même quand elle est en veille, elle switch sur le canal de la, elle switch sur le canal de la Switch, même quand les gens sont en train de faire autre chose, tu vois,
oui,
quand ils regardent la
télé.
Et
elle revient directement. J'ai eu ça sur, ça me l'a fait une fois.
C'est une télé Samsung que tu as ?
Non, non, c'est une télé Sony, mais je passe par un ampli Onkyo, donc je sais pas si c'est ça.
Quoi ?
Donc il y a des
Onkyo.
Onkyo ? Je connais pas, excuse-moi.
Bah, c'est parce que tu connais rien.
Ouais,
en
je
wifi,
connais rien, moi, en wifi. Donc,
Onkyo, c'est super connu.
Bon, c'est enfin, bref.
Et donc, effectivement, j'ai eu ça une fois. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Mais en fait, elle switch pas sur le canal de la Switch. Enfin, elle, oui, elle le fait, mais elle revient sur le précédent. Clac, 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 clac. Elle me l'a fait, effectivement.
Moi, je vous pose une question, c'est dans combien d'années Sony sort la PS Vita 2 avec le même concept ?
Bah,
moi, j'y crois dur comme fer. Mais je pense qu'eux, ils vont le faire dans l'autre sens. Ils vont dire c'est une portable
que vous pouvez mettre dans
votre machin, comme ça boum ils auront leur PS5.
En même, temps tu peux
boosté.
Le dire dans les deux
tu
sens
dis, ben oui on s'en fout c'est hybride.
Faut, voilà.
mais j'en suis sûr parce que clairement la hype elle est là. S'ils arrivent avec une console qui est un peu plus puissante et machin, ils pourront peut-être la jouer avec une communication différente. On a vu qu'il y avait un brevet qui avait été déposé.
Ouais.
Mais Sony
le Cyril
que
brevet,
copier ouais. De toute manière
mais ils vont pas copier, ils vont pas copier tout le concept c'est
bah pourquoi pas
je sais pas. Non, parce que moi
c'est
je trouve
ce serait pas la première fois que le
truc, fantastique c'est aussi ce que j'ai constaté avec mes enfants
les
c'est les Joy-Con parce que les Joy-Con tu les détaches ouais. Ça fait deux manettes ouais. C'est à dire qu'en permanence
Nintendo,
t'as Bomberman tu vas chez ton pote chez lui tu vois tu poses la console en mode table tu détaches les deux Joy-Con et tu te fais un Bomberman.
Il y a déjà des tablettes
parce que je me rappelle il y a quelques semaines quand je disais et l'un des avantages c'est qu'il y a vraiment deux manettes on me faisait mais c'est pas deux manettes
moi
ah non mais je t'ai pas dit ça je t'ai dit j'ai entendu ça très fréquemment pour moi cette console est la première depuis je sais pas combien de siècles
avec les vrais de manettes.
Deux manettes.
Ouais. Voilà. Et moi j'ai pu avoir la démonstration avec mes gosses chez moi. Je l'ai raconté dans un précédent podcast. Ils m'ont sorti la console là de la du dock. Ils sont allés dans leur piole. Ils l'ont mis pareil en mode table. Ils ont sorti les deux Joy-Con. Ils ont fait un one to switch.
Et c'est largement suffisant. Ça marche bien.
J'ai dit oh ça va les enfants. J'ai repris ma console. J'ai remis les trucs. Hop, j'ai remis la console dans le machin. Pouf, l'image est apparue sur la télé.
Ce qui fait
il y a quelque chose de magique. En
d'ici 6 mois, il y aura une deuxième Switch chez lui.
Ah bah, ça c'est sûr.
Voilà. Et ouais. Ce qui va faire que les ventes vont faire
chez les trois hommes aussi hein, d'ailleurs parce qu'il ne peut pas
c'est
jouer
la même
à Zelda
chose pour que pour la DS elle a cartonné tellement et les gens étaient tellement accros dessus qu'il y a eu plusieurs DS par foyer.
Ah, moi, j'en ai
et
trois.
C'est ça qu'a fait le phénomène il se déclenche quand tu as plusieurs machines quand le même foyer qui est gamer ou pas ou machin on achète de la surconsommation.
Chez moi j'ai deux DS et trois 3DS.
T'achètes pas deux PS4 ou deux Xbox
mais pour
One
pourquoi, mec,
mais tu vas acheter deux
j'ai deux gosses. Qu'est-ce que tu veux on va pas se partager la 3DS chacun a la sienne.
Bah,
c'est normal.
Bravo. Moi, je suis obligé de prendre un prêt si je fais ça. Donc,
arrête.
Non, je plaisante. Puisque j'ai pas d'enfant encore. Alors, ça, c'était pour la
mais
console.
Ça, ce qu'on vient de dire, ouais. Ça veut dire beaucoup sur l'avenir de la Switch. Hein,
oui.
Quand même. Mmh. Vraiment
j'ai,
beaucoup.
J'ai, en tout cas, sur son avenir.
J'ai aussi.
Son
j'ai
avenir
hâte
proche.
Vraiment de voir des FPS. Que tu pourras jouer
c'est
en split
c'est
ou des
chose.
Jeux de sport avec des gameplays compliqués parce que les deux Joy-Con pour jouer un FPS à deux en split
mais non,
ça va
mais c'est pour jouer à Mario Kart
t'as toujours pas compris ce qu'était cette machine en fait.
Et ben voilà, ça limite encore une fois les possibilités
bah ouais.
Mais pourquoi pas
branlent.
Mais ça, voilà. Ça les a étendus sur sur des champs inexistants jusqu'à maintenant. C'est quand même ça qui est génial. Tu peux voir le verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein parce que finalement il est effectivement rempli qu'à moitié ou vide à moitié.
Mais il est à moitié.
Non, mais c'est pour ça,
mais
c'est pour ça qu'il
chez
faut
les autres
aussi
sur
parler choses. Faut aussi parler de la partie vide et pas dire que tout est
oui,
super
mais dans
génial.
Regarde,
tout
c'est
complémentaire.
Mais je suis pas en train de dire
c'est
que
mais non mais on a l'impression,
c'est l'impression
que là ils ont réinventé le jeu vidéo, c'est le truc le plus ouf de l'histoire de tous les temps.
Non, moi j'ai pas entendu ça, donc
c'était cool quoi.
Non, ce qui est génial, c'est le concept. Le concept est génial. Voilà. Point final. C'est tout. Il est génial ce concept.
Et sans,
je suis pas en train de dire
crier.
Que la console est la meilleure console qui ait jamais existé, qu'elle peut faire tout ce que font toutes les autres, plus autre chose. Et je suis pas en train d'attaquer la PlayStation 4 et la Xbox One en disant ah là là, elles savent pas faire ce que c'est fait la Switch. Non, je parle de la Switch et je dis elle fait ça et ça c'est cool.
Mais elle fait ça sur quoi aussi ? Sur Bomberman.
Mais sur tous les prochains jeux.
Et Mario Kart.
Sur One to Switch.
28 qui arrive, avril. Qui arrive dans 20 jours là.
28
attends,
avril.
Mes enfants adorent One to Switch. Moi perso.
Mais One to Switch, moi je trouve qu'il est super.
Moi perso, j'ai vraiment
moi,
bien aimé One
hein.
To Switch.
Combien de temps ?
Bah à chaque
bah, là,
soir, à chaque moment où tu peux y jouer.
C'est des plages de jeu de 10 minutes, tu vois.
C'est pas la consommation dans Zelda.
Oui, c'est sûr.
Ah, c'est clair.
Non, mais c'est comme dire, non, mais c'est exactement comme dire, je sais pas, les olives noires ou les petits buffets. T'aimes pas ça H24, quoi. Mais par contre, quand tu fais une soirée, quand t'en prends, t'aimes bien. Pendant 10 minutes, t'en manges, après ça te gave.
Ah, c'est une bonne image. Bon, dans tous les cas.
C'est une image respectable.
Mais tu vois, même Bomberman.
Convenable, même bien.
Même Bomberman, que j'ai un peu saqué, parce qu'il m'a énervé. Il a un potentiel, même pour un jeu moyen comme lui, de fun dans le train ou à la maison.
Oui,
avec
d'autant qu'il y a un patch sur les commandes qui est censé arriver.
Il est arrivé. Ouais. Et il est censé régler le problème de lag. Pas d'accord. De lag dans les commandes.
Pas de la précision aussi.
Ah bah je sais pas, moi j'ai pas lu ça en tout cas. Moi j'irai vérifier. Si c'est le cas, je reviendrai sur mon test et peut-être lui ajouterai-je un point.
Voire parce deux. Que voire cinq.
Non.
Bon, tant pis. J'aurais essayé. J'aurais
peut-être un point.
Et alors, et je pensais à toi d'ailleurs, Romain, parce que alors, je
sais plus
quand c'était, c'était. Je crois que c'était la semaine dernière.
Sous la douche.
vous êtes très nombreux. Alors, je pensais que ça allait se calmer, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Beaucoup de gens m'envoient des photos d'eux avec la Switch ou la Switch
des etc. photos de Romain quoi et, qu'est-ce que c'est que c'est ça
alors vous êtes très sympa au début je l'ai RT à chaque fois, pas à chaque fois mais bon maintenant je vais pas non plus pouvoir le faire à chaque fois hein. Par contre il y en a pas mal qui me l'ont envoyé dans le métro et j'ai vu ma première Switch dans le métro donc j'ai pensé à toi.
Ça y est, t'as vu une Switch
ouais,
dans,
j'ai
le
dans le métro
et
là,
toujours pas République.
Mais elle était chargée ou pas
Ah bah le mec jouait ouais.
Ah, enfin, moi je regarde et tous les jours hein, j'avais justement
plusieurs
parlé
personnes m'en ont envoyé.
Je regarde tous les jours, j'ai pas vu une seule personne avec.
Alors
une
vous savez quoi
métro.
Désormais je vais les forwarder à Romain donc si vous voyez des gens
non,
dans
non,
le métro
non, non, non,
si vous êtes dans
non,
le métro avec votre Switch envoyez-les moi.
Non non, j'ai pas besoin de le voir hein, je vous crois sur parole, c'est pas la peine de m'envoyer vos photos.
C'est pour ça que j'ai dit envoyez-les moi.
Mais tu vas me les transférer donc
je suis transféré peut-être. Voilà, mais envoyez-les moi, ça m'amusera.
Bon, cela dit, moi par exemple, j'ose pas trop la sortir dans le trou.
Ah, moi non plus, hein. Surtout pas sur la ligne 13.
Tu parlais pas de la Switch, hein. Moi je parlais d'autre chose.
Ah, tu parlais de quoi?
Je sais pas.
Ta photo de moi.
La photo de Romain. Bon, ça c'était pour.
Non, mais c'est vrai que c'est un. Comme tous les objets neufs, je me rappelle, c'est comme.
Dans l'erreur, envoyé aussi.
Notre premier iPhone.
Moi j'avais peur avec mon iPod. Je regardais des trucs dessus. Le premier iPod vidéo, je regardais des trucs dessus.
Tu tiens fort dans ta main.
Dans ma main comme ça. C'est normal.
Oui, non, mais regarde, c'est comme tout. L'iPhone au début, tu osais pas. Maintenant, tout le monde est avec son iPhone.
Et tout le monde se fait tirer.
Dans un an, c'est fini quoi. Mm. Tout le monde aura sa Switch dans le métro. Quoi.
Par contre, le podcast, il est pas fini jacking. Du tout. Mais alors vraiment pas du tout parce qu'on va arriver à la deuxième partie de ce podcast qui est la plus fracassante, la plus tonitruante, pardon, à savoir les jeux qui sont sortis durant ce premier trimestre. Bon, je vais faire le listing. Alors ce listing, donc des jeux du.
Qu'est-ce que.
Je sais pas, Julo.
Ah, il a pris un petit coup de vieux là quand même.
Bah, il a surtout pris la Switch.
Putain, l'enfoiré.
Alors, l'ordure, il s'est barré. Il s'est barré avec la Switch. Bah, non, mais ça m'étonne pas.
Le Dring Dring et encore Dring quoi.
Ça, c'est surtout que lui, il est toujours à fond dans Zelda et il ne s'arrête pas. Il y aura des représailles.
Donc,
Julo.
Pour ceux qui ont pas la vidéo, Julo
voilà.
Plus là, hein.
Voilà, Julo n'est plus là.
Il a plus de Julo. Si vous ne l'entendez plus, c'est pas qu'il.
Il nous a fait une Naruto, il a remplacé ça par une peluche Mario. C'est assez fou.
Quel effet spécial incroyable. Les podcasts du Gameblog.
Ces jeux du premier trimestre, complètement fou.
Fais-nous la liste.
Je vais vous faire la liste. Je vais vous la mimer. Alors,
génial. Alors pour ceux qui nous suivent,
Dragon Quest 8.
Quest.
J'ai dit Quest.
Dragon Quest 8.
Donc, Dragon Quest 8. Gravity Rush 2. Yakuza 0. Resident Evil 7. Tales of Berseria.
Il accélère.
Poochies and Yoshi's Woolly World. Ça, j'accélère pas parce que c'est plus dur. Nioh. Yakuza 6 en import. Dragon Ball Fusion. Horizon Zero Dawn. Zelda Breath of the Wild. Mario Sport Superstar. Vous pouvez me faire un beat derrière ou pas? Merci. Fast Remix. Nier Automata.
Bien Remix.
Tu continues? Tu continues pas, bon bref. Shovel Knight Treasure Trove. Il y a aussi Apollo VR qui est arrivé sur PlayStation VR. Absolument.
Ce qui fait que beaucoup de personnes l'ont découvert là et sont revenus par rapport à la vidéo que j'avais fait sur le HTC Vive où j'avais confessé que bah oui, j'avais pleuré tellement j'avais été ému, touché par cette expérience là et ils ont dit putain je comprends parce que pareil, je crois d'ailleurs qu'on a publié, enfin c'est pas je crois, je m'en rappelle parce que c'est moi qui l'ai fait,
un blog.
Serial Butcher qui nous a fait un long descriptif de son expérience et lui aussi a été vraiment marqué.
Il a quitté l'orbite terrestre.
Et évidemment il y aura aussi Thimbleweed Park qui arrive avant la fin du mois de mars, donc un premier trimestre complètement fou. Et on vous passe évidemment les jeux qui n'ont pas eu entre 8 et 10. Il y en a eu des bons, évidemment. Hein. La note de 7 reste une bonne note.
Oui, mais alors c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avant que le PC plante.
Ah oui, c'est vrai. Alors, on va
vous raconter ce podcast. Les coulisses de Gameblog. Ouais. C'est que désormais, si t'es pas vraiment excellent, t'es has-been. Parce que le degré de qualité est tellement monté qu'il n'y a plus de place à juste être pas mal.
Oh, de là à dire qu'il n'y a pas de place pour un Ghost Recon Wildlands, pour un Torment, pour un Mass Effect Andromeda, qui malgré la déception, à mon avis, comme nous le disait Julo, avant que le PC plante, il y a quand même des gens qui vont se jeter dedans et qui vont surkiffer.
Bah, le truc, ce sont des jeux qui ne font plus un plébiscite global. Après, tu peux attirer un type de public précis en fonction des goûts, tu vois. Mais le problème avec ça, c'est que bah, les jeux sont trop chers par rapport au public qu'ils peuvent toucher potentiellement, tu vois. Quand, maintenant, en fait, ils ont besoin, vu les budgets impliqués, etc., ils ont besoin que ce soit des gros cartons massifs à chaque fois pour réussir à rentrer dans leurs frais.
Absolument. Mais là, voilà, c'est clair que si t'as toutes les machines et que tu te fies à ce listing, bah, t'es ruiné tout bêtement, quoi.
Alors,
avec un petit bémol, peut-être. C'est ça.
J'ai l'impression de déjà.
Ouais, c'est bizarre. Hein.
Oui, mais on vous a fait un sondage sur Gameblog.
Absolument.
Où on vous a demandé en fait quelle était pour vous l'importance des exclusivités. Et il est, je crois que tu as les chiffres.
J'ai les chiffres.
C'est revenu de manière très claire.
Oui, c'est très important les exclusivités pour vous à 67%. C'est déterminant.
68% pardon. Même si j'en crois l'image qu'on est en train d'afficher.
68%. Ça a bougé. Alors Poufi nous fait tout en direct là, pour les premiers.
C'est déterminant les exclusivités pour l'achat d'une machine. 25%, c'est important mais pas essentiel. Et seulement 6%, je m'en fiche complètement. En gros, bon, clairement, à quasiment 70%, les exclus, c'est clé. Et quand tu regardes ce début d'année, sur PS4, il y a eu masse d'exclusivités.
Dont Nio, l'exclusivité VR Nier, de Resident Evil 7.
Exactement. Nioh, Nier, Horizon.
Yakuza.
Les deux Yakuza d'ailleurs.
Bref,
parce qu'il y a
pléthore.
Le 0 et le 6.
Sur la Switch, Zelda est une exclue. One to Switch est une exclue. Voilà.
Fast Remix est une exclue.
Bomberman aussi.
Sur Xbox One, il y a Halo Wars 2. Ouais. Qui n'est pas un mauvais jeu, mais qui n'est pas un jeu transcendantal non plus. Et puis c'est tout. Voilà. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Du coup, on sent bien que de deux choses l'une. Soit il y a un vrai gros problème chez Microsoft, mais je pense, je ne ferai pas partie de cette chapelle pour l'instant. Soit vraiment, ils font de la rétention d'informations d'ici l'E3, ou peut-être même un tout petit peu avant, et
avant,
la Scorpio, etc. Et ils vont y aller... genre ambiance on balance les missiles derrière.
Blitzkrieg, quoi.
Mais il faut faire ça parce que sinon quand même ce début d'année, et d'ailleurs des informations que j'ai sur les chiffres de vente depuis la sortie de la Switch, les ventes de PS4, je parle de la France, n'ont pas ralenti ou à la marge, enfin tout se passe bien quoi. Les ventes de la Switch, on sait ce qu'elles sont. Par contre, les ventes de Xbox One ont sérieusement freiné.
Mais c'est normal, qu'est-ce qui est sorti récemment sur
Xbox One. Parce que tu vois, là, pour le coup,
c'était quoi la plus grosse annonce sur Xbox One depuis le début de l'année ? C'est l'annulation de Scalebound.
Ça aurait peut-être été ça aussi sans la Switch. Parce que quand on se base sur les jeux, uniquement les jeux, et encore plus sur les exclusivités Xbox, bah là, à moins de revenir sur des jeux déjà sortis
la Switch,
à un moment.
Forcément, à un pourcentage que je ne connais pas, mais qui peut pas être inférieur à 1%, joue là-dedans. Parce que t'as quand même tous les gens, enfin parmi les gens qui ont acheté une Switch, il y en a, ils sont pas 100% que des gens qui avaient pas une PS4 ou une Xbox One. Dans l'eau, tu dois en avoir qui ont de ces machines-là. Et le temps que la Switch phagocyte, et Zelda en vrai phagocyte, t'es pas en train de le mettre sur autre chose. Donc peut-être que tu te serais, si la Switch n'existe pas, peut-être que tu te prendrais, t'as une Xbox One seulement, tu te prends peut-être un Ghost Recon. Mais peut-être que comme t'es en train de jouer à Zelda à fond, ta Xbox One, tu la sors même plus quoi.
Oui, mais aussi s'il y avait une grosse sortie Xbox en début d'année, il y aurait peut-être eu plus de ventes de machines aussi. C'est juste que, alors déjà en France, on sait que Halo, toute notion de qualité mise à part, c'est pas la licence qui fait le plus rêver les Français.
Et alors un RTS Halo.
Alors voilà, un RTS. Enfin, c'est pas, enfin un RTS console, c'est pas un système seller, ça l'a jamais été. Je pense
c'est
que
presque,
ça sera,
presque
ça
tout est fait
jamais.
Pour pas que ça se vende en France. En fait.
D'autant que le jeu, si j'en crois le test sur Gameblog.
Et je dis ça alors que j'adore Halo, mais vraiment.
Et vraiment pas un mauvais jeu, au contraire, c'est un bon jeu, mais c'est pas plus d'un bon jeu. Donc, alors que chez la concurrence, on flirte avec le fantastique, l'exceptionnel, etc. quoi. Donc le différentiel est doublement violent. Quoi.
Ce qui est violent surtout, c'est que dans le temps où justement t'as des Nier Automata, des Nioh, des Yakuza qui arrivent sur PS4, et t'as du Zelda sur Switch et tu vas avoir le 28 avril le Mario Kart 8 Deluxe auquel les personnes qui n'ont pas acheté de Wii U vont pouvoir jouer.
Ah, ça va faire
du Splatoon 2 qui va arriver probablement en juin-juillet pour remettre une couche par-dessus, et que ça, à ces dates-là, pour Microsoft, on a que dalle.
Et on a publié, je suis chier, mais c'est important, à faire un listing exhaustif des exclusivités sur les trois consoles. Sur la Switch, sur, il a été mis à jour, hein, pour ceux qui te poseraient la question, sur la PS4 et sur la Xbox One. Beaucoup parmi ces jeux-là n'ont pas de date encore de sortie, mais au moins ont été annoncés. Et vraiment, à ce niveau-là, dans cette guéguerre-là, la PS4, quand même, a un listing d'exclusivité. Attention, hein, notre notion d'exclusivité intègre aussi les jeux qui vont sortir sur PC.
Exclusivité console.
Mais exclusivité console. Parce que dans ce cas-là, il n'y a aucune exclusivité Xbox. Donc, on est obligé de fonctionner comme ça. Vous
Absolument.
Comprenez bien. Donc, c'est genre, si ça sort aussi sur PC, on le compte comme une exclusivité du moment qu'il sort sur aucune autre console de la même génération. Bah, y en a vraiment beaucoup sur PS4. Il y en a pas mal sur Switch. Et il y en a vraiment pas beaucoup pour l'instant sur Xbox One.
Bah, disons que pour l'instant, ce sont des noms,
que le 3
été, des noms qui ont été jetés comme ça, ou des choses qu'on n'a pas vu depuis longtemps, comme Crackdown 3 qui devrait arriver
Cuphead,
cette année.
Cuphead, qui a l'air génial, mais bon, ça fait 3 ans qu'on en parle et il arrive toujours pas. Ouais. Là, il arrive, hein, mais il y a Bilo aussi.
Ouais.
Voilà, enfin. Et puis, il y a beaucoup de petits jeux. Enfin,
Chobilo
c'est,
même.
C'est pas péjoratif, mais des petits jeux indés, quoi. Donc, il est.
Qui sont déjà en masse sur Switch,
parce
sur
que
PS4,
Cuphead,
hein.
Cuphead et Bilo, ça reste pas des.
Ce
c'est pas du triple A. Donc
Phantom Dust non plus, on ne sait pas ce que ça va donner. Il paraît que c'est un jeu culte pour les joueurs de la première Xbox.
Quand ça va être mis
nous,
en face de Last of Us 2
God of War,
c'est un peu tendu, quoi, on va dire, en termes d'industrie et de vente par millions de jeux. Quoi.
Ouais,
bon.
C'est compliqué.
Mais il y a le 3, et j'entends Phil Spencer qui répète à l'envi que cette année 2017 sera plus riche en exclusivité que l'année précédente du côté de la Xbox. Donc j'y crois encore, mais c'est vrai qu'à un moment il faut lâcher les chevaux là.
Ouais, parce que ça parle beaucoup et ça fait des déclarations similaires depuis plusieurs mois, peut-être même plus d'un an, et elles sont pas encore suivies d'actes. Donc au bout d'un moment, faut concrétiser toutes les.
Ah bah c'est clair que là,
toutes les déclarations
seraient en face de David Pujadas et François Langlais dans des paroles et des actes, ils seraient dans la merde. Hein.
Ben
ça
non.
faut le dire. Hein.
Mais non, mais faut y aller. Et là, pour le coup, comme on le disait au début de podcast, cette E3 pour Microsoft est déterminant vraiment.
Bah c'est plus que déterminant, c'est.
S'ils ont un cabinet noir.
Tu penses qu'ils sont en cabinet noir du côté de chez PlayStation pour éliminer
Exactement.
Microsoft.
Moi je pense que Yoshida derrière a
complètement
œuvré auprès des éditeurs
de Monsieur Tout Gentil en fait.
Exactement.
Hop, il balance et il dit des saloperies.
Est-ce que Yoshida est le François Hollande du jeu vidéo?
Non, je pense pas. Je pense qu'ils n'ont absolument rien en commun. J'aurais deux questions pour finir. Donc la première, évidemment, est-ce que le jeu vidéo c'était mieux avant?
C'était super avant.
Mais là, quand
on
voit ce premier
aujourd'hui,
quand on voit ce premier trimestre, est-ce qu'on n'est pas on peut pas se dire oui,
il y a trop de jeux.
Oui.
Le vrai problème, en
fait. Ah bah en fait, on aurait dû faire ça comme titre en fait pour le podcast.
Il y a trop de jeux.
Il y a trop de jeux en 2017.
Non mais franchement.
Oh, bah, on dit ça tous les ans.
Qui décemment a les sous et
le temps
de pouvoir jouer à tous les jeux qu'on vient de citer là.
Attends,
en deux mois et demi, c'est pas possible.
Bouge pas,
là, faut être millionnaire et vivre de ses rentes et pas avoir à travailler pour pouvoir tout faire et se consacrer pleinement.
Attendez,
je vois Carole depuis qu'elle a lancé le test de Zelda pour Gameblog, elle est toujours dessus, elle doit être à 120-130 heures de jeu. Elle n'est pas en train de jouer à 15 autres millions de jeux. Enfin,
j'en ai déjà fait. Non, Horizon, je l'ai pas fini, c'est vrai. Bon, j'en ai.
Moi, j'ai fait quoi? J'ai fait Horizon. J'ai fait Resident Evil 7.
J'en ai 4 quand même hein, dans le temps. C'est pas mal. Hein.
J'ai commencé. Enfin, j'ai joué à Zelda. J'ai joué un peu à Nier. Nioh aussi.
Ah, c'est, t'as commencé Nier?
Ouais, un petit peu. Très, très peu.
Tu m'en parleras.
T'as pas assez.
Bon, ok, d'accord. Tu m'en parleras pas tout de suite.
Non.
Donc, ça, c'était,
ma
question par rapport évidemment au titre du podcast. Mais la vraie question qu'on va se poser maintenant, après ces 3 premiers mois, est-ce que vous pensez, messieurs, qu'on peut réussir à faire une année encore plus époustouflante que l'année 1998 qui est décrétée comme étant la meilleure année du jeu vidéo?
Il suffit de voir ce qu'il y avait, hein.
Du Resident Evil 2, du Fallout, du Metal Gear Solid, du Baldur's Gate, du Medieval,
Ocarina of Time.
Bref, c'était une année de cinglé. 98, est-ce que vous pensez?
Et
je les ai pas tous notés
en plus, hein. Bon bref,
voilà.
Moi je passais mon bac et tout, c'était super.
Je vais te donner mon avis sans plus attendre. Je pense que non. Parce que, à part Zelda, qui visiblement est un jeu un essential, comme disent les gens, un jeu qui est incontournable historiquement, on a beaucoup d'excellents jeux, mais je ne suis pas certain que dans tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, on aura des jeux dans 20 ans, on y repensera, on se dira, ah ouais, tu te souviens.
Alors, Nioh, moi je m'en rappellerai dans 20 ans, j'en suis certain maintenant.
Après,
à ce point-là?
Oui.
un jeu culte dans 20 ans, tu te diras Nio.
Ah ouais, Nio. Ah non, non, mais pas Nio, pardon. Nier Automata.
Ouais. Nier Automata.
Nier Automata, je m'en rappellerai dans 20 ans, c'est sûr.
Après, je pense aussi que nous ne sommes pas les mêmes qu'il y a 20 ans aussi. Et donc, il faudrait poser aussi ces questions à des plus jeunes qui ont cet âge-là où t'as
mais là, c'est parce la notion
nous,
nostalgie
nous,
qui joue aussi.
Nous, on a toute l'histoire du jeu vidéo derrière et machin. Il y a quand même, en tout cas, sans présager de l'avenir, il y a vraiment des sacrées pépites. Et si on commence à lever un petit peu le regard sur ce qui arrive, je pense à des Red Dead Redemption 2 par exemple, on a moyen, peut-être pas d'égaler 98 qui était exceptionnel effectivement, mais entre l'arrivée de la Switch qui est aussi un peu un game changer qui va à mon sens changer les choses dans l'industrie du jeu vidéo et la manière de faire des machines, on a quand même des... En tout cas, on est sûr de passer l'une de nos meilleures années de jeux vidéo.
Ah bah, si l'année continue sur sa lancée, et ce qui semble être le cas, on a une année dont on se souviendra clairement, oui, à plusieurs niveaux.
Oh, parce que
non seulement on a énormément de très bons jeux, mais en plus on a le lancement de deux machines. Donc pour l'instant, on en a eu une sur les deux. On a la Scorpio plus tard. Donc oui, la 2017 fera date dans l'histoire du jeu vidéo, c'est certain.
Et elle fera date dans l'histoire de Gameblog à plus d'un titre déjà.
Ah bah oui, c'est vrai, tiens.
Parce que c'est les 10 ans de Gameblog et qu'on n'a qu'une fois 10 ans. Enfin, remarquez, nous, on a pu avoir 10 ans en vrai et 10 ans avec le site. C'est déjà pas mal. Et c'est l'occasion, une fois de plus, de vous remercier. Vraiment, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes là depuis le début.
Sauf Julo maintenant qui n'est plus là.
Julo est
qui a disparu.
Pour d'autres, vous nous avez quittés, puis vous avez eu la curiosité d'essayer de regarder et vous avez rendu compte qu'en fait ça avait rechangé peut-être et que ça vous replaisait. Donc on est vraiment heureux de vous retrouver. Pour d'autres, vous nous avez découvert il y a quelques temps, pour d'autres très récemment. Il y en a beaucoup qui nous ont découvert depuis quelques mois maintenant et vous avez l'air de prendre plaisir à être avec nous. On vous en remercie.
Alors on vous annonce officiellement le calendrier des dieux du stade version Gameblog.
J'aimerais bien moi un jour.
C'est vrai?
Ouais, franchement. Ouais.
Ah ouais?
Ouais, j'y avais pensé une fois avec un peu qui on mettrait, comment on ferait et tout, ce serait rigolo.
Ouais, mais faudrait qu'on fasse du sport pour certains. Hein,
ouais, parce que là,
t'en vends 3.
Je sais pas.
Pas sûr,
mais...
hein.
Ouais,
pas
si
sûr.
Tu mets
Johnny One en couve ou Rudy, je pense qu'il y a moyen, surtout Johnny One en fait, je pense qu'il y a moyen d'en vendre beaucoup. Genre beaucoup, 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 beaucoup.
D'ailleurs, en parlant de Johnny One ou Rudy, qui sont deux pigistes maintenant dont vous avez l'habitude sur Gameblog.
Vous êtes viré, voilà. Hop, ça c'était, fallait que ça passe. Ah, c'est pas ça.
Même si Rudy va pas quitter Gameblog, mais va quitter la France, mais on le retrouvera toujours.
En prévision des élections présidentielles, évidemment.
On le retrouvera toujours dans les colonnes de Gameblog. Mais par contre, on va accueillir des petits nouveaux. Trois personnes. On va accueillir une community manager en stage à Gameblog, Eve, que vous allez découvrir très prochainement. Et on va accueillir deux rédacteurs pigistes e-sport. Ouais, Gameblog va essayer.
avec eux, je pense pas qu'on va essayer.
Bah, il y a Alix et Alexandre qui vont nous rejoindre. Ils seront là bientôt avec nous sur ce canapé. On vous les présentera comme il se doit pour faire un peu d'e-sport sur Gameblog. Et ça commencera très très prochainement. Donc on compte sur vous pour leur réserver un chaleureux accueil. Et si j'en crois les audiences de Gameblog, parce qu'à un moment, bon, c'est quand même un petit indicateur, elles sont 80% supérieures, puisqu'on a parlé du premier trimestre. Donc premier trimestre est quasiment deux fois plus haut cette année que l'année dernière. Et ça,
est-ce que c'est
parce qu'on bosse, mais c'est aussi parce que vous nous faites l'amitié et la fidélité.
Mais est-ce que c'est meilleur que celui de 98?
Alors, vu qu'on n'existait pas, oui.
D'accord.
Cela dit, l'augmentation est donc infinie, puisque 0 multiplié par ce que tu veux, c'est l'infini.
Bon, bah voilà. Je crois qu'on va finir sur l'infini.
C'est bon.
L'infini de la fin de ce podcast. Merci, Romain. Merci, Julien. Merci,
merci à vous.
Merci, Julo. Enfin, bon, je sais pas comment le dire.
Merci, Mario.
Merci, Mario. Merci, Poufi, comme d'habitude, à la Sono. N'hésitez pas, évidemment, comme à chaque fois, à nous dire dans les commentaires tout ce que vous avez entendu qui a pu vous faire plaisir, vous faire bondir, que vous partagez. C'est des idées peut-être que vous partagez avec nous concernant ce premier trimestre, ce bilan du premier trimestre 2017. Et Julien, tu avais
une petite chose à dire. Ah oui, c'est la tradition. Mais le pire, c'est que je le fais même pas exprès, mais je repense à toujours un petit truc en après.
Dis-moi.
Vous avez constaté, et je vous remercie pour votre patience, que les rendez-vous de Gameblog sont de retour depuis maintenant 2 semaines. Donc du lundi au vendredi à 10h le matin, tous les jours, vous avez un rendez-vous, une chronique le lundi, un Je me souviens le mardi, un Trivia le mercredi, un Super Rétro Turbo Extra Plus Prime, ce que tu veux.
Super Rétro Prime Turbo.
Le vendredi, voilà. Il y a les tops aussi le samedi, et il y aura, puisque vous l'avez compris, il y a de l'e-sport, etc., d'autres choses et des interviews qui reviennent. C'est vraiment des contenus qui sont rendus possibles grâce à nos membres premium. Mais vraiment, parce que c'est pas des cartons d'audience de fou, on pourrait très bien dire dans ce cas-là, bah, hey, on les fait pas, et qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça nous prend du temps, ça prend du temps de montage, de réflexion, de machin. Et ben on les fait quand même, on les continue grâce à nos membres premium. Donc je tenais vraiment, c'est un peu la kermesse, là, l'école des femmes, mais vraiment à vous remercier. Et pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas encore premium, bah, je ne saurais trop vous inviter de passer et de devenir premium, parce que un, ça va vous permettre de découvrir, comme nos abonnés, le podcast en avant-première dès le vendredi et non pas le mercredi, donc quasiment une semaine d'avance en vidéo, et de soutenir directement la rédaction pour ce genre de contenu. Si vous les aimez, bah, n'hésitez pas à nous le dire, et membre premium, c'est la meilleure manière de le faire.
Exactement. Voilà. Et allez les voir, surtout ces contenus, notamment lisez-les. Le reportage de la Coupe de France de Street Fighter 5 dont on vous a déjà parlé la semaine dernière, mais j'en rajoute une couche, un gros reportage
en immersion, les
que Poufy et Johnny Wan se sont fait un plaisir de faire. N'hésitez pas à aller le voir, parce qu'ils le méritent. Voilà, tout simplement. On remercie encore, évidemment, tout le monde.
Nos parents.
Voilà, la famille, le réalisateur, le producteur,
nos agents,
mes sponsors, voilà. Aussi.
Voilà,
on remercie évidemment tout le monde, et évidemment, comme d'habitude, on vous dit à la semaine prochaine. Et
dans les forums, n'hésitez pas à nous dire.
Ah oui, ça je leur ai déjà dit, t'inquiète, mais je peux leur rappeler. Dans les forums, juste en dessous là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast et de tout ce qu'on a dit concernant le premier trimestre 2017.
Oui, voilà,
on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout,
jouez bien.
Jouez bien, ciao.
On vous aime, bisous.